Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. COP 27, que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'électricité en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons avec Christian Kabongombenga, il est coordonnateur du secteur énergie à l'ONG Ressources Mater. Bonjour Monsieur Christian.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct. Par SMS, nous attendons vos témoignages, questions, suggestions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Patrice Mouderoy de Bukavu, aussi Kivu, qui nous dit ceci. L'électricité en milieu rural booste le développement industriel. Malheureusement, en RDC, tout semble se concentrer dans les grandes villes. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision, la coordination et la réalisation de Jean-Marc Matouaki. Alain Goy s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Dédicace.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La situation énergétique est paradoxale en RDC malgré ses potentialités, notamment en énergie hydraulique, solaire, éolienne et géothermique. Selon les spécialistes, le déficit énergétique est très important, surtout en milieu rural, avec seulement 1% du taux d'accès à l'énergie électrique contre 35% dans les villes comme Kinshasa et Lubumbashi. Pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique, certains projets sont en cours d'exécution et d'autres sont à l'état d'abandon sur l'ensemble du territoire national. Cette situation constitue un frein au développement de plusieurs villes de la RDC selon les spécialistes. Que faut-il alors faire pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons avec notre invité qui est ici au studio, Monsieur Christian. Est-ce que vous partagez les constats faits par les spécialistes concernant surtout le faible taux d'accès à l'énergie électrique en RDC?
Oui, merci M. Tati pour la parole. Et je salue aussi les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec les constats des
experts qui, dans le secteur de l'énergie électrique.
Qui disent que, évidemment, pour l'instant, le taux d'accès est vraiment trop faible, ça c'est vrai, et je peux encore appuyer cela en disant que, vous savez, dans les années passées, nous avions plusieurs centrales qui autrefois étaient dont l'énergie qui était produite c'était dédiée à la population,
qui fonctionnait à temps plein.
Oui. Et je prends l'exemple du Haut-Katanga, donc ou le Grand Katanga. Donc nous avons des barrages comme Koni, Mwadingusha, Ntseke. Ces centrales, l'énergie qui était produite, évidemment Inga D, c'était dédié à la population. Mais aujourd'hui, vous allez vous constater que ces centrales qui autrefois donnaient l'énergie à la population, aujourd'hui, ces centrales sont réhabilitées et l'énergie ne va plus vers la population, mais c'est orienté vers les entreprises minières. Oui. Et du coup, on ne sait pas si on doit vraiment parler de l'augmentation du taux d'accès ou peut-être, on doit dire carrément qu'il y a une diminution du taux d'accès, parce que autrefois cette énergie était pour la population, aujourd'hui c'est pour les entreprises minières. Donc la population ne se retrouve pas vraiment.
Les miniers, ce sont des bons payeurs, des bons clients pour la SNEL qui produit l'énergie électrique. Quoi de plus normal qu'on sert d'abord des bons clients?
Oui, je comprends bien, mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, le constat est fait. Aujourd'hui, à Goma, nous avons des entreprises comme Nourou, nous avons Sokodé. Ce sont des privés qui sont jetés dans ces marchés parce que le secteur est libéralisé. Et nous constatons que au niveau de Goma, la population est à même de payer l'énergie qui leur sont desserte. Et on voit que il y a un pouvoir d'achat au niveau de la population. Donc on ne peut pas négliger la population pour dire que non, on doit nécessairement donner l'énergie seulement aux grandes entreprises parce qu'ils payent bien. Aujourd'hui, avec l'expérience de Goma, nous pouvons carrément dire que la population est à même de payer les services énergétiques qu'on leur donne, quoi.
Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'électricité en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 30 63 94. Monsieur Christian, vous êtes le coordonnateur de ressources Mater. Parlez-nous un peu de cette structure ainsi que de votre champ d'action, au fait.
Parfait, merci. Alors, Ressources Mater, c'est une organisation internationale belge. Mmh. Nous avons commencé à travailler en RDC depuis 2017. Et Ressources Mater est né, en fait, du constat que tu as soulevé au début, du fait qu'il y a ces paradoxes entre
la potentialité
énergétique qui existe pour le pays, dans les pays. Donc, mais jusqu'aujourd'hui, la population est dans les noirs. Jusqu'aujourd'hui, la population n'en bénéficie pas. Alors nous, donc c'était ces constats qui avaient en fait éveillé notre intention pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population congolaise puisse vraiment être à mesure de bénéficier de ces ressources qu'elle a, donc entre autres l'eau, le solaire, l'éolien, la géothermie, les ressources géothermales. Comment est-ce que la population congolaise peut bénéficier de ces ressources pour son électrification? Donc depuis 2017.
Parce que les potentialités sont là.
Oui.
Les ressources, elles sont là.
Évidemment, voilà. Évidemment. Donc dans notre actif, si je dois dire ce qu'on a déjà fait, évidemment, le premier travail qu'on avait fait, c'était d'abord d'inventorier tout ce qui existait comme données sur les centrales existantes, mais aussi le potentiel solaire hydroélectrique de l'RDC. Mmh. Parce que il faut commencer d'abord par savoir ce que vous avez avant de pouvoir aller très loin. Donc c'était notre premier travail qu'on avait fait en 2017. Nous étions partis du travail qui a été fait par le PNUD sur les ACLAS pour pouvoir consolider cela et arriver à mettre en place une base de données qui normalement devait permettre à ce que même les gens qui sont en dehors du pays puissent être à mesure, en cliquant sur le site Map for Environment, de pouvoir voir le pays et aussi les différents endroits où il y a les potentiels.
D'accord.
Dans le pays.
Okay.
Donc ça, c'est une des choses que nous avons fait, un élément dans notre actif. Alors, donc dans notre manière de fonctionner, évidemment, comme nous sommes une ONG internationale, ici au pays, nous travaillons aussi avec des organisations locales. Et évidemment, nous sommes dans cette province, donc ces organisations sont réunies au sein d'un réseau que nous appelons Réseau Mwangaza. Et nous militons en fait dans ces réseaux pour l'accès pour tous à l'énergie. Donc le travail que nous faisons avec ces organisations sur le terrain, c'est de plaider pour qu'il y ait accès pour tous à l'énergie. Comme vous le savez, donc l'article 48 de notre constitution parle que l'accès à l'électricité, c'est un droit pour tous. Alors nous travaillons sous cet angle-là, et en conformité aussi avec l'ODD7, et qui évidemment parle aussi de l'accès pour tous à l'énergie.
À l'énergie électrique.
Donc voilà. Donc c'est un peu ça que. C'est de cette façon-là que nous fonctionnons, donc avec ces organisations dans les provinces. Donc on est dans les Haut-Katanga, à Kolwezi, donc dans les Lualaba, on est à Lituri, et on est à Goma, à Bukavu, on est dans les Kasaï, et aussi ici à Kinshasa.
Oui, monsieur Christian, voilà. Dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc nous allons partir au standard, donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent. Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour prendre la parole en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Vos questions sont les bienvenues au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Nous commençons par le premier auditeur, il est à Kinshasa, il s'appelle Bienvenue, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour Radio Okapi.
C'est Tati plutôt qui est à l'antenne. Nous parlons de qu'est faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique en RDC. Qu'est-ce que vous nous dites?
Oui, mais qu'est faut-il faire? Je crois vous avez cité les ODD7.
Oui.
Nous croyons qu'aujourd'hui même les gens, entre guillemets, les pollueurs payés qui doivent nous payer, prennent les pas. Mais quand M. Christian a essayé de donner les statistiques, il dit par contre nous sommes en recul. Dans les milliards d'euros, vous avez donné la statistique de 1%, mais lui dit nous sommes en recul. Comment voulez-vous que les populations qui doivent protéger les forêts elles-mêmes n'ont pas accès à l'électricité? Si on n'a pas l'accès à l'électricité, du coup, on se rabat sur les forêts. S'il faut aller encore dans notre pays, on voit que la SNEL, qui est une société étatique qui doit servir la population, se donne à fournir de l'électricité aux entreprises minières parce que, entre guillemets, ce sont des bons payeurs. Comment voulez-vous, entre guillemets, vous accepter d'être un pays solution, mais de l'autre côté, vous faites une politique discriminatoire sur l'accès à l'électricité. Ces gens-là, les villageois, je dirais, excusez-moi le terme, tant qu'ils n'auront pas accès à l'électricité, tout ce qu'on peut dire, toutes les enquêtes qu'on peut faire, tout ce qu'on peut leur prodiguer comme conseil, ils n'ont pas autre chose à faire si pas se rabattre sur la forêt. Aujourd'hui, je crois, à travers la République, il y a plusieurs centrales hydroélectriques qui sont laissées comme ça. Je prends l'exemple chez nous, Kakobo, là, il y a Katele, qui, depuis longtemps, ça devient un fond de campagne. Mm. On fait aucun effort pour que ces centrales-là soient en production. Que voulez-vous que les Congolais fassent? De toutes les façons, tant que nous n'aurons pas accès à l'électricité durable, nous avons qu'une seule source d'énergie, c'est la forêt. Dans ces cas-là, c'est que les institutions internationales doivent faire c'est quoi? Fournir ne serait-ce que même l'énergie solaire aux populations villageoises. Si on pense que la construction des centrales électriques, ça consomme beaucoup d'énergie, même l'énergie solaire, on peut pallier pour qu'il n'y ait pas une forte concentration des populations sur la forêt.
Merci beaucoup, bienvenue. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Donc, vous avez décrié le fait qu'il y ait un faible taux d'accès à l'énergie électrique dans les villes et dans les milieux reculés. En même temps aussi, il y a des centrales à l'état d'abandon à travers les pays. Vous avez évoqué les cas de Kakobola. Merci, monsieur, bienvenue. L'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation. Nous allons cette fois-ci à Kouali Kale pour donner la parole à monsieur Chico, à qui nous disons bonjour. Chico, bonjour. Malheureusement, Chico n'est plus en ligne. Le temps pour la réalisation de rappeler monsieur Chico. Nous allons cette fois-ci en Ituri, à Arou, spécialement pour donner la parole à Madira, Oléa, Marcel, à qui on dit bonjour.
Allô? Allô?
Oui, c'est monsieur Marcel.
C'est bien moi, Madira, à partir d'Arou.
Oui,
Marcel. Mais notre intervenant parle très bien. Si Arou, SNL avait fixé les poteaux et les câbles. Mais pour le moment, si vous venez sur Arou, vous ne trouverez aucun poteau. De quel courant il parle, par exemple, de l'Ituri? Peut-être à Bounia, oui, mais chez nous, sur Arou, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Là, il fallait qu'il parle la vérité.
Oui, mais attendez, monsieur Marcel, chez vous, là, les poteaux sont allés où?
Les poteaux sont tombés. Les poteaux sont tombés, même les courants sont aussi, les câbles sont ramassés par la population. Il n'y a aucune trace ici de SNL.
Ah, donc on avait commencé à installer les circuits de transport du courant électrique et puis les projets n'ont pas évolué, c'est ça?
Bon, on a quand même installé. Les poteaux étaient fixés, les câbles étaient fixés. Fort malheureusement, le courant n'a pas eu lieu et tout est partant. Tout est partant. Si vous arrivez ici à Roux, autrement c'est Kibel Gold qui essaie de fixer les lacs là avec les panneaux, mais cela ne suffit pas. C'est seulement sur quelques acteurs d'Arou. Si vous trouvez par exemple quartier SF, SF a quelques lapes, cité d'Arou, en tout cas dans les Noirs, Routiaba ne parlait pas, Katanga alors on ne peut pas parler de Katanga, en tout cas les quatre quartiers d'Arou sont dans les Noirs. Quel notre auditeur ici parle la vérité? Il a fallu qu'il parle la vérité qui est sur terrain. Moi qui vous parle, je suis ici à Arou, en tout cas il n'y a rien ici à Arou.
Mais comment vous faites pour avoir accès à l'électricité à Arou?
Bon, la population d'Arou se débrouille. C'est là qu'ils ont des moyens, ils ont quand même les groupes électrogènes. Mmh. Mais d'autres se débrouillent d'une façon peut-être coutumière. Ici, vraiment, il n'y a pas de courant. C'est Kibel Gold qui a essayé de fixer quelques lattes seulement. Je dirais lattes, puisque c'est à partir des panneaux. Alors, cela ne couvre pas toute la population.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Aou que vous intervenez. Merci pour votre témoignage. L'invité aura le temps de commenter sur ta préoccupation. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous donnons la parole à ingénieur John Lukika qui nous appelle de Kindu dans les Maniema. Bonjour, ingénieur John.
Bonjour, Tété. Comment ça va là-bas?
Nous allons bien, merci. Vous allez également bien à Kindu, Molungé?
Plus ou moins, la problématique de l'électricité ici, c'est un casse-tête. Vous voyez, la SNL qui est supposée envoyer l'électricité. Chez moi, par exemple, je ne vois l'électricité qu'un jour et puis après, c'est la facture que je vois. Mais à propos, je voulais indiquer que je connais le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. jusqu'au transport, jusqu'au milieu de consommation. Mmh. Je connais comment fonctionne également une centrale nucléaire, depuis la production jusqu'à la consommation. Je connais comment fonctionne une centrale éolienne, depuis sa production jusqu'à sa consommation. Mais je ne connais pas comment fonctionne une centrale géothermique. Je demande à ce que l'invité sur place me donne comment est le mécanisme de fonctionnement d'une centrale géothermique. En tout état de cause, le problème d'électricité dans les milieux ruraux, je redis, je ne cesserai de le répéter, c'est un casse-tête. Et pourtant, l'énergie électrique, on ne peut pas parler du développement dans le milieu sans l'électricité. En tout cas, quand vous parlez du développement sans électricité, c'est une utopie. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. À Kindu, on le voit, le jour que l'on voit l'électricité, c'est un jeu de lumière et puis après, hein, c'est parti. Et puis, le lendemain, c'est les factures qui viennent. Merci en tout cas.
Oui, ingénieur John, dites-nous, vous êtes un spécialiste ingénieur en génie électrique?
Non, je suis ingénieur agronome enseignant dans plusieurs établissements de l'ESI ici. Je suis quand même ingénieur enseignant de cours de génie rural, quelque chose comme ça. Voilà.
Oui, mais alors, le courant électrique que vous recevez là, qui vient comme un jet de lumière, est fourni par quelle entreprise?
C'est par la SNEL, c'est la SNEL qui fait le monopole ici, il n'y a pas une autre alternative.
Merci beaucoup, ingénieur John. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Christian, comment répondez-vous à la question des bienvenus qui a dénoncé le faible accès du courant électrique dans les villes et dans les milieux reculés? En même temps aussi, il a évoqué le fait qu'il y ait des centrales, surtout hydroélectriques, des micro-centrales qui sont presque à l'état d'abandon à travers les pays. Il a cité notamment les cas des Kakobola.
Oui, je suis d'accord avec les auditeurs, déjà bienvenue, en disant que évidemment jusqu'à présent les taux d'accès n'est pas très élevé, ça c'est vrai. Et des centrales abandonnées. Je pense que pour l'instant, je n'ai pas encore donné ma réponse sur la question autour desquelles nous devons répondre à notre souci. Moi, je n'ai pas encore donné ma réponse, évidemment. Oui. Ça, c'est vous qui êtes tenté d'avancer déjà vos réponses. Et je pense que moi aussi, je vais m'aligner, je pense, d'une manière ou d'une autre à vos réponses. Parce que quand je vais répondre, je pense que je vais toucher à ce que vous êtes tenté déjà de dire là. C'est, par exemple, le problème des centrales en abandon. Et pour moi, je pense que ça, c'est déjà un vrai problème. Parce que si on veut améliorer les taux d'accès, il faut commencer par là. Il faut commencer d'abord avec ce que vous avez.
Donc,
vous devez réhabiliter ces centrales. Et ça, pour moi, c'est déjà une des premières solutions qu'on doit mettre en exergue. C'est que, en parlant de ça, parce que je vous ai dit que nous travaillons en réseau, et une organisation du réseau Mwangaz avait publié un rapport sur les centrales en abandon, et c'était aux alentours des 63 barrages en abandon. J'ai la documentation, je peux vous partager. Donc, 63 barrages en abandon. Et c'était Corap, donc, de Kinshasa ici. Donc, ils avaient mené une recherche parce que c'est un peu ça notre façon de travailler. Nous menons des recherches et à l'issue des recherches, nous pouvons parler sur des problèmes qu'il y a dans les secteurs.
Oui, parce qu'il a aussi souligné qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas de courant dans les ménages, la population va utiliser les bois énergie comme source d'énergie pour la cuisson et voilà.
Oui, je suis d'accord. Mais je pense que la solution par rapport au milieu rural est là parce qu'aujourd'hui, nous avons l'ANSER. L'ANSER est en train de travailler pour l'électrification en milieu périurbain et rural. Et ils sont en train de faire vraiment un travail considérable. Je pense que dans les jours à venir, nous aurons déjà, par exemple, pour les Kasaï, je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont annoncés et c'est déjà en cours de réalisation. Donc, d'ici 2023, nous pouvons voir qu'il y aura de l'amélioration par rapport à ce qui concerne l'accès à
l'eau. Oui, mais en même temps aussi, le temps est en train de s'écouler, Monsieur Christian, parce que ça a été lancé en juin, on est presque en novembre, le chef de l'État devrait aller au Kasaï pour inaugurer les premières centrales en décembre. Je pense qu'avec ces délais, ça ne sera pas possible. Donc, il y a en même temps aussi les problèmes du respect du timing d'exécution de projet.
Oui. Je suis d'accord avec vous, mais nous devons savoir une chose. Nous, c'est vrai, le besoin d'avoir l'électricité, c'est un besoin immédiat. Ça, c'est, je suis d'accord. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi un processus que nous devons respecter. Donc, il faut faire des études de terrain, mmh. il faut réellement acheter des matériels et l'amener ici au pays. Donc tout ça, ça doit prendre du temps.
Oui.
Et on ne veut pas faire des choses à la hâte parce qu'on a besoin d'électricité dans mmh. 2 jours et après on se retrouve dans les noirs. Je pense que nous avons besoin des centrales qui seront durables. Nous avons besoin de ces sites-là qui ne vont pas fonctionner juste parce que le président veut passer et ça fonctionne. Et après, le passage du président, tout est en arrêt. Nous n'avons pas besoin d'avoir de telles
choses. Il y a eu beaucoup de projets comme ça le lendemain.
Voilà. Ouais. Alors, la population doit comprendre une chose, c'est que nous voulons l'électricité et tout le monde en a besoin.
Oui.
Mais nous devons savoir qu'il y a un processus à respecter. Parfois, on ne sera pas dans les timings, mais... Déjà, quand quelque chose a commencé, nous devons déjà louer ces efforts qui sont en train d'être faits. Et ça, je pense que nous devons comprendre un peu par rapport au timing. Et je pense que l'ANSER en est conscient parce que j'ai échangé avec quelques personnes et ils savent qu'ils ont un peu ces deadlines, mais ils sont en train de travailler par rapport à l'électrification.
Oui, Marcel de Harou, il a dit que c'est une utopie d'avoir du courant à Harou parce que on avait commencé un projet, on a installé des poteaux et puis voilà. Les circuits de transport d'énergie électrique et puis plus rien.
Alors. Avec Marcel, évidemment, je suis aussi d'accord. Mais bon, Marcel me parle de Katanga. Quand je parle de Katanga, évidemment, je ne parlais pas de Katanga du côté Ituri, tout ça. Les Katanga, je parlais du Grand Katanga.
Oui.
Et évidemment, ça, je devais déjà souligner ça.
Oui.
Donc, par contre, je suis vraiment d'accord avec lui par rapport au problème d'accès à l'électricité pour l'Ituri. L'unique centrale qui autrefois fonctionnait, c'était Boudana. Et Boudana aujourd'hui, il produit parce que nous avons un partenaire qui est là sur place. Donc c'est CDC Ituri qui travaille sur place là-bas, qui évidemment plaide pour l'accès pour tous à l'électrification. Et donc il y a quand même des avancées parce que vous devez savoir que aussi bien au niveau provincial qu'au niveau national, nous naviguons dans le secteur de l'énergie un peu à vie. Nous n'avons pas une planification, une vision claire, c'est là où nous voulons aller. Mais évidemment, pour la province de l'Ituri, je pense qu'ils sont en train de travailler. Il y a quand même des préalables. Ils ont maintenant un document sur quoi ils peuvent se fier, donc sur un plan provincial, donc de l'électrification. Et ça, c'est déjà quelque chose, quoi. Sur quoi on peut se fier pour ça donne un peu une idée, c'est là où ils veulent aller. Et aujourd'hui, je sais qu'ils ont vraiment des problèmes. Moi-même, j'étais à l'Ituri. Je t'assure, le courant, c'est un problème. Même au sein de la ville, même là, il y a vraiment des délestages comme pas possible.
Oui, parce qu'il a dit la population, les ménages recourent au groupe électrogène.
Exact, au groupe électrogène, même dans les hôtels. Donc, c'est vraiment ça. Et je pense que, au stade actuel, il y a Nourou qui est en train de s'installer, parce que Nourou a amené quand même des matériels au niveau de l'Ituri pour s'installer. Mmh. Et je pense que même au niveau de Harou, ils vont y aller et petit à petit. Donc, c'est un peu un processus. Mais pour l'instant, moi, j'avais bien dit, les taux d'accès est trop faible. D'ailleurs, quand on parle de 9, 15, moi, je
ce
suis
sont
encore...
des estimations,
oui,
en fait.
Ce sont vraiment des estimations et je ne suis pas totalement convaincu par rapport à ça. Et il y a des exceptions, comme je l'ai dit dans la vie de Goma. Là, on peut comprendre qu'il y a exception parce que nous voyons Sokode, nous voyons Nourou. Donc, on sait qu'ils ont quand même amené un plus par rapport à l'énergie que la SNEL donnait à la population. Donc ça, là-bas, pour cette province, on peut dire que voilà, il y a un peu une particularité. Mais dans d'autres provinces, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train encore de patiner. Et il y a déjà plus de 8 ans, depuis que le secteur est libéralisé, on ne voit pas toujours des investisseurs. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut vraiment que nous puissions réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons faire basculer les choses, qu'on quitte un peu les slogans de dire potentialité, mais qu'on aille un peu dans les actions concrètes pour l'électrification. Je suis d'accord.
Que faut-il faire pour augmenter le taux d'accès à l'énergie électrique en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. Si le sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos témoignages, questions et suggestions au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel de nommé service@radiocapi.net.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Allons cette fois-ci dans la ville de Mbandaka pour donner la parole à M. Albert, à qui nous disons bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aussi à messieurs l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capu partout, ils sont en train de nous suivre.
Faites-nous un peu la situation, les tableaux techniques de l'accès à l'énergie électrique au niveau de la ville de Mbandaka.
Normalement, l'accès à l'électricité dans la province de l'Équateur en général, ce n'est pas disponible. L'électricité dans la ville de Mbandaka en général, c'est une façon là d'indisponibilité. Maintenant, ce qui ça m'étonne moi personnellement, au moment où nous étions encore de petits ici dans la province de l'Équateur, précisément dans mon territoire de Makanta, il y a eu des poteaux que la cinelle avait laissé. J'avais vu, jusqu'à présent, il y a des traces des cinelles, même au niveau des territoires ainsi que des secteurs de la province de l'Équateur. Maintenant, la chose qui est grave est que, au Congo, nous avons un barrage, un grand barrage qui peut alimenter même toute l'Afrique entière, l'Inga qui est là, et nous, les Congolais et les habitants de certaines provinces, nous souffrons à ce qui concerne l'accès à l'électricité. Maintenant, la charge pour moi revient à l'État, dans le sens que les lots de poteaux qu'on avait trouvés, par exemple, chez moi à Makanda, jusqu'à présent, ça existe. C'était à l'époque des présidents Mobutu, que son âme repose en paix. Et pour le moment, les poteaux là sont abandonnés là-bas. Le gouvernement qui avait succédé monsieur le président Mobutu, ils n'ont pas eu la volonté d'accompagner notre fait président là pour lutter contre l'électricité en République démocratique du Congo ou dans certaines provinces comme la province de l'Équateur. Maintenant, ici à Mbandaka, il y a un grand problème. Nous marchons même pendant la nuit grâce aux nouvelles technologies que notre gouverneur de la province a mis en marche pour que notre province et certaines avenues soient
éclairées,
alimentées. Maintenant, quand vous allez dans certains territoires, par exemple chez moi à Makanda, j'aime parler de Makanda parce que c'est mon territoire, parce que j'ai certaines connaissances à ce qui concerne cela. Là-bas, vous allez trouver les rues, les avenues là sont vraiment, quand vous marchez pendant la nuit, vous voyez comme si vous êtes, c'est comme si vous êtes sous l'eau. Maintenant, nous sommes alimentés par certains politiciens, par exemple, notre député provincial, l'honorable présidente Marie-Josée Molebo, qui a essayé d'alimenter un peu certaines avenues de mon territoire. Maintenant, je me demande, ma question, de savoir, quel est le rôle de la CINEL en République démocratique du Congo? Parce que quand nous allons définir la CINEL, c'est une société nationale d'électricité. C'est une société qui est nationale. Et nous, ici à l'Équateur, nous attendons, il y a certaines villes voisines qui sont alimentées par notre propre courant, par exemple Dinga. Nous, les Congolais, nous souffrons à ce qui concerne l'électricité. Maintenant, à l'époque de monsieur le gouverneur honoré José Makila Soumanda, il avait cherché les moyens pour qu'on puisse relier les courants de la province de Bandundu jusqu'à la province de l'Équateur. Mais le projet là n'a pas été abouti. Maintenant, nous sommes restés comme ça. Bon, au juste, quel est le rôle joué par la CINEL à République démocratique du Congo? Parce qu'il y a certains coins, il y a certaines provinces même qui ne s'alimentent pas. Et sur ce, nous voulons que la CINEL mette en marche toutes ces activités pour alimenter notre pays. Nous ne pouvons pas aller dépenser n'importe quel moyen, par exemple, en achetant de nouvelles technologies pour l'alimentation ou pour allumer notre pays. Vraiment, un peu ma préoccupation.
Merci beaucoup, monsieur Albert. Je rappelle que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Il faut savoir que le secteur a été libéralisé il y a plus de 5 ans. Donc, même des particuliers peuvent mettre des capitaux pour amener l'électricité et la commercialiser auprès des ménages. Cette fois-ci, retournons en fait à Ituri pour donner la parole à Justin. Justin, vous êtes à Bounia, bonjour.
Monsieur Tati, bonjour à l'invité.
Allez droit au but, on vous écoute. Allez-y.
Oui, merci Monsieur Tati de m'avoir associé dans cette émission. Oui, en tout cas, Monsieur Tati, c'est déplorable dans notre pays, en voyant que nous sommes dans un pays riche. On dit que le Congo, c'est un pays solution. Quant à moi, le Congo, c'est un pays problème. Nous avons le Congo à toutes les potentialités. Mais nos dirigeants, ils sont remplis avec une mauvaise volonté. Donc, il y a une mégestion.
Oui, mais attendez, dites-moi, Justin, comment décrivez-vous la situation d'accès à l'électricité à Bounia, au niveau de la ville de Bounia spécialement?
Oui, monsieur Tati, c'est déplorable. Nous vivons dans les noirs. C'est vraiment grâce à la MONUSCO qu'ils nous ont amené des panneaux solaires, de lapadeurs. C'est ce qui alimente. Et puis, on ne peut pas dire que nous vivons. Nous n'avons pas un courant ici. Nous n'avons pas, en tout cas, un courant. Il y a des délestages généralisés. Je ne sais même pas si les services de la SNEL existent dans ces pays. Je ne sais pas si nous avons même des parlementaires. Parce que nous, les populations aussi, nous oublions vite. Bientôt, quand les parlementaires viendront, les députés vont venir, ils vont encore nous tromper. Et quand ils vont nous tromper, nous allons encore les élever. Nous allons encore voter ces soi-disant députés-là. Ils vont encore disparaître, M. Tati. Depuis que nos parlementaires nous ont trompé que non, la ville sera électrifiée, mais nous vivons en tout cas dans une obscurité. Monsieur Tati,
oui. Ma question est celle de... Allez-y rapidement. De... Oui, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Allez-y rapidement.
Oui. Oui, ma question est celle de savoir. Nous avons Inga 1, nous avons Inga 2, même voir Inga 3, Inga 4. Mais pourquoi, en tout cas, on ne parvient pas à électrifier toutes nos villes? Et lorsque il y a... parce que vous dites que le service est libéralisé. Mm. Par exemple, à Goma, en tout cas, moi, j'encourage les gens de Goma. Mais lorsque il y a les opérateurs économiques commencent encore à faire certaines innovations ou à même des courants, mais allez voir combien de taxes, M. Tati. Donc, on dit trop dépôt-il impôt. Quelqu'un qui peut avoir innovation pour quand même changer. Mais ici, à Bounia, ça ne se fait jamais. Mais quelqu'un qui peut avoir soit une initiative d'amener le courant, mais vous aurez combien de taxes? Et puis tout cet argent-là n'est même pas canalisé dans les trésors publics. Il y a des fraudes, les gens donc, ils taxent selon leurs grains, et puis l'argent se volatilise dans des poches des gens. Donc, moi j'en appelle en tout cas que nos autorités, nos parlementaires, de bien gérer. Lorsque les contribuables donnent, fallait que cet argent-là, qu'on trouve quand même, les contribuables puissent se retrouver que non, réellement, ils ont contribué, ils ont donné de l'argent. Mais lorsque nous donnons l'argent, il y a des détournements, il y a ceci et cela. Vous voyez que ça décourage aussi parfois. Donc c'est ça, je vous remercie. Bonne journée, monsieur Tati.
Ah, merci beaucoup, monsieur Kalabia. Justin, nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Merci beaucoup, excellente journée. Monsieur Christian, l'auditeur de Mandaka, Albert et Justin Kalabia, leurs préoccupations se recoupent en même temps aussi l'auditeur de Kindu, au fait, parce que quels sont les types d'énergie quels sont les types d'énergie que l'on peut développer hein, dans cette région-là, parce que c'est traversé par la ligne équatoriale?
Alors, je dirais ceci. En fait, les auditeurs ont dit beaucoup de choses à la fois. Ils parlent d'Inga 1, Inga 2, et ils parlent des poteaux, ils parlent des roads de la SNEL.
Oui, ben oui, puis les ménages n'ont pas toujours du courant.
Voilà. Alors, tu as déjà répondu à un auditeur en disant que nous devons savoir que le secteur est libéralisé depuis déjà 8 ans. Donc, nous ne devons pas continuer à mettre la pression seulement sur la SNEL. Donc, maintenant là, nous devons normalement chercher comment est-ce que nous pouvons même booster ou chercher à avoir des investisseurs au niveau de nos provinces
qui
investissent dans les secteurs.
Oui, quand j'étais à Goma récemment, oui. Il y a 2 mois, et d'ailleurs, il y a un habitant de Goma qui m'a témoigné, bon, le courant de la Seine ne vient qu'à minuit, il ne voit pas pourquoi il va payer ça. Ce qu'il fait, il achète de l'énergie à une entreprise privée locale, et puis il a du courant en permanence, et puis ça lui permet de faire tourner son congélateur, ses appareils électroménagers.
Voilà. Donc, nous ne devons pas chercher à se focaliser d'abord, je dirais, à la SNEL, parce qu'évidemment, le secteur est libéralisé, tout le monde doit aujourd'hui choisir une centrale, investir et produire et vendre de l'énergie. Oui. Ça, c'est un élément que je devais dire. Alors, le fait qu'ils ont revenu à Inga 1, Inga 2, nous devons savoir aussi une chose, c'est que nous parlons de l'énergie, nous parlons des technologies modernes. Nous devons savoir aussi que au jour d'aujourd'hui, si nous voulons parler de l'accès à l'énergie de manière plus rapide, nous devons faire aussi attention en voulant nous focaliser plus à Inga. Nous ne savons pas le temps que cela doit prendre. Si nous voulons aujourd'hui avoir de l'énergie de Inga, le temps que cela doit prendre. Alors ça, c'est vraiment un fort raisonnement de vouloir attendre l'énergie de Yinga.
C'est pas moins de 10 ans pour
c'est
finaliser.
C'est pas moins de 10 ans, moins de 15 ans pour que les gens aient la population, et la population aient l'énergie. Alors, si nous voulons avoir l'électricité de manière la plus rapide, alors nous devons nous focaliser sur des solutions décentralisées. Quand je dis des solutions décentralisées, c'est des solutions qui se focalisent sur les mini-réseaux, sur les kits solaires individuels, qui évidemment se concentrent sur le potentiel que nous trouvons dans nos milieux. Donc,
c'est ce qu'on appelle, Monsieur Christian, la mix énergétique selon les régions, selon les potentialités.
Voilà, voilà. Donc, selon les régions, selon les potentialités qu'il y a dans le milieu, c'est-à-dire vous focalisez sur ce que vous avez dans votre milieu. Évidemment, je dirais, par exemple, nous sommes à Bounia ou soit nous sommes à l'Équateur, nous voulons avoir de l'électricité. Pourquoi nous allons attendre qu'on puisse produire l'Inga et mettre les lignes? Parce qu'il y a la production, il y a les transports, il y a la distribution. Tout ça, c'est des coûts. Et cette énergie-là, vous devez savoir que l'ODDC insiste sur l'abordabilité, c'est-à-dire il faut que ça soit un coût abordable,
accessible à tout le ménage.
Donc, si maintenant l'énergie qui sera produite à Yinga, avec les coûts des transports, des productions, des distributions, cette énergie-là pour arriver à Ituri ou soit pour arriver à Mbandaka, ça va excessivement coûter au ménage. Et ils ne seront pas mesurés peut-être de payer cela. C'est pourquoi nous
voulons... Même la maintenance du réseau,
voilà, même la maintenance va poser problème. Oui. Alors, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous pensons que les solutions qui sont la plus rapide pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir une solution et avoir l'électricité, c'est des solutions qui s'adaptent en fait sur les solutions et sur les ressources disponibles dans les milieux. C'est-à-dire, quelles sont les rivières qui passent à côté? Où est-ce qu'il y a les potentiels? Et c'est le grand travail que Ressources Matas a fait à travers la plateforme Congo Epela. Oui. Nous avons pu identifier dans cette plateforme les données sur, d'abord, les potentiels qu'il y a dans toutes les régions, dans toutes les provinces du pays.
Oui, mais Monsieur Christian, vous êtes le coordonnateur de Mater Ressources. Ouais. Mais en même temps aussi, vous avez répertorié, vous avez dans cette documentation, il y a des projets qui ont commencé et sans lendemain, il y en a plein à travers les pays. C'est ça aussi le comble, on va commencer et puis les projets restent un chantier éternel, la population n'a toujours pas accès à l'électricité.
Oui, ça c'est vrai, mais on doit faire la part des choses. Parce qu'il y a d'un côté les projets que le gouvernement a lancés, ça nous tous nous condamnons, parce qu'il y a des projets, par exemple les projets des Maloukou, les projets solaires qui sont là, jusqu'aujourd'hui il n'y a rien dans ces sites-là.
Oui, d'ailleurs le fait de l'oignon qu'on poussait dans les sites...
Donc il n'y a rien. Ça aussi c'est des choses que nous condamnons. Oui. Mais évidemment, je ne pense pas que quand un privé arrive dans les secteurs, c'est pourquoi nous voulons un peu inciter la population à pouvoir chercher dans les provinces des gens qui ont de l'argent, qui autrefois ne savaient pas quoi faire avec l'argent, qu'ils investissent dans les secteurs de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons au niveau du Katanga, nous avons Monsieur Eric Bunga qui est en train de construire la centrale de Sombwe. Et au niveau de Kasai, nous avons M. John Kanyoni avec Tembo Power. Donc, ce sont des gens qui, autrefois, ils étaient dans les mines.
Non, mais parce que vous avez évoqué le cas de Kasai, il y a Katanga, il y avait aussi un projet d'une centrale photovoltaïque qui a rayonné pendant un petit moment et puis il n'y a plus rien.
On m'a parlé de ça. Ce sont des choses que nous devons éviter parce que quelqu'un m'a parlé de ça. J'étais dans un forum où quelqu'un s'est levé pour dire, mais ici, chez nous, au Kasai, on a fait un truc et puis après quelques mois, c'est fini. Alors, le problème, c'est ça, tantôt là, je vous disais, nous devons faire attention, le fait de vouloir avoir l'électricité. Mais et puis on fait des choses à la hâte pour seulement avoir l'énergie pour une ou deux semaines, après tout tombe en faillite. Non, nous devons faire des choses de manière durable. C'est pourquoi j'avais dit que nous devons savoir que c'est un processus, nous devons aller step by step. Donc nous devons respecter vraiment et aussi même vérifier parfois les matériels, les équipements, là d'où ça provient.
Oui. Parce que ça, la qualité des équipements, l'adhésion des communautés locales qui vont aussi bénéficier de ces courants qui sera produit par cette centrale, par exemple, photovoltaïque.
Et ça, parce que j'ai échangé avec les gens de INPP, je pense que INPP va travailler avec l'ANSER dans ce sens-là, parce que quand on veut aller dans le sens de la durabilité, il faut aussi tenir compte des main-d'œuvre locales. Donc l'INPP veut former les jeunes dans des provinces où l'ANSER va construire des centrales pour que ces jeunes-là puissent assurer la relève. Donc déjà, ils auront de l'emploi, mais aussi ils vont avoir des capacités pour pouvoir gérer à bien toutes ces infrastructures, quoi. Donc ça, c'est des choses que nous devons vraiment aussi penser, parce que comme je l'ai dit, nous voulons avoir l'énergie, mais quel type d'énergie et pour quelle durée? Donc nous devons aussi regarder cet angle là donc pour mes amis de l'Équateur, plutôt Albert, pour Justin au niveau de l'Ituri, je pense que nous devons un peu mettre de côté Inga. Ça, c'est une des choses, et nous devons nous orienter vers des ressources qui sont vraiment dans notre province. À l'Ituri, ils ont ce qui est vrai, ils ont un fort potentiel en solaire.
Donc, en solaire et puis les vents, il y a des collines en Ituri.
Éolien. Donc ils ont un potentiel éolien, ils ont un potentiel solaire. Donc ils peuvent facilement aujourd'hui se tourner vers ces deux potentiels et avoir de l'énergie rapide pour alimenter leur ville. Donc, et ça, d'un côté, c'est vrai, c'est un devoir pour le gouvernement congolais, mais nous ne devons pas seulement croiser les bras pour dire le gouvernement doit faire. Quand le gouvernement n'arrive pas à faire, c'est pourquoi même on a libéralisé le secteur. Il faut penser à comment est-ce qu'on peut susciter des investisseurs au niveau local pour que ces gens investissent. Et donc, j'ai dit à l'Ituri, il y a déjà Nourou qui est allé là-bas, et je pense qu'il y aura encore d'autres qui vont aller comme ça. Et la politique actuelle, c'est d'aller vers des solutions décentralisées.
Oui, mais il a aussi évoqué le fait que certains entrepreneurs s'essoufflent au bout de quelques mois. Il y a beaucoup de taxes.
Exact.
Parfois, ça complique même l'investissement, c'est ça.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et parfois, moi, j'ai échangé avec les directeurs ou les DG de Virunga, Frem Balolé. Alors, c'est vraiment un vrai problème. Donc, en même temps, c'est comme si on appelle les investisseurs, en même temps, on bloque le secteur, on ne veut pas que les gens entrent. Donc, il y a ces problèmes de sub-taxation, et ça, c'est même Nourou aussi en parle. Donc, et tous, ils sont en train de subir un peu ces problèmes. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train, nous, comme des organisations de société civile, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut vraiment essayer de voir le gouvernement, de discuter avec les ministres des tutelles, l'arrêt, l'ANCR, pour qu'on essaye un peu de revoir aussi cet aspect des choses. Parce que s'il y a plus de taxes, les coûts aussi de la vente d'électricité aux ménages va augmenter.
Oui.
Donc il y a déjà il y aura vraiment un impact direct sur l'accès. Donc ça aussi, on doit tenir compte de ça. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de nous projeter pour des dialogues un peu multilatéral, bilatéral avec ces institutions pour qu'on essaye de pouvoir corriger les choses. Parce que en même temps, on est en train de vouloir avoir les investisseurs, mais on ne peut pas continuer à surtaxer ces gens qui sont déjà là sur place. Alors sinon, c'est comme si on n'a pas besoin vraiment d'avoir l'électricité.
Nous allons retourner au standard, c'est Christian. Il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent, donc on va leur donner l'occasion de poser leurs questions parce que vous êtes là au studio pour eux. Que faut-il faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité en RDC par rapport aux ODD7? Nous en parlons dans cette émission au Capi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Participez, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous donnons la parole cette fois-ci à Monsieur Kamerika, il est à Niouzou, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, bonjour papa, bonjour.
À vous la parole, allez-y.
Ok, moi je vous ai suivi trop bien, mais sauf que ce que je voulais seulement vous informer, Anne, que au Congo, en tout cas, l'énergie ne suffit pas. Ici, chez nous, à Nyunzu, à Kalemi, au Congolo et à Nyunzu et à Kabalo, en tout cas, nous sommes toujours dans l'obscurité. Ce que je voulais vous conseiller, Anne, que il fallait que le gouvernement conjugue plusieurs efforts à propos de l'énergie. Ici, à Congolo, nous avons découvert une montagne de l'énergie. Le plus résistant et le plus fort, plus supérieur que celle de Yinga, qui peut quand même alimenter plusieurs territoires et en dehors du Congo. Alors, il fallait que le gouvernement fasse un effort, qu'il vienne construire des stations pour alimenter quelque part, et ici aussi, nous serons alimentés.
Dites-nous, c'est quoi ce sont des chutes, des cascades que vous avez découvert au niveau des Niouzou?
Nous étions vraiment dans des recherches volcaniques. C'est là où nous avons découvert une montagne qui peut quand même alimenter. Là, il fallait toujours arriver avec des gens des SNL qui peuvent quand même faire des études là.
Okay.
mettre des postes qui peuvent quand même alimenter du courant.
Merci beaucoup, ça donne la géothermie. Merci beaucoup, Monsieur Kamerika. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Niouzou que vous nous appelez. Nous allons cette fois-ci au Kasaï pour donner la parole à Alain de Chimbulu. Bonjour.
Ok, grand merci.
À vous la parole, Monsieur Alain. Alain, s'il vous plaît, vous êtes en ligne. Est-ce que vous nous écoutez?
Il est loin. Je vous suis.
Allez-y, prenez la parole. On vous donne la parole. Allez-y. Éteignez la radio. Écoutez-nous au téléphone, s'il vous plaît.
Ok. Je suis à votre écoute.
Voilà.
Ce que j'ai voulu seulement vous demander, c'est que il fallait que le gouvernement conduise plusieurs efforts. Qu'ils envoient les SNL ici pour arriver à mettre des stations. Comme à Congolo, il y a une montagne de l'énergie qui peut quand même alimenter, supérieure que celle de Inga, que c'est le barrage de Inga.
Vous appelez comment cette montagne-là? Est-ce qu'il a une appellation, cette montagne?
Mayamoto, à 15 km de Congolo.
Mayamoto, à 15 km de Congolo. Merci beaucoup pour cette révélation. Dites-nous alors, comment est-ce que localement vous faites pour avoir du courant électrique au niveau de la cité de Chimbulu?
Justement, ici, en tout cas, ici, c'est Tanyunzu. En tout cas, là, nous n'avons pas de courant électrique ici.
Merci beaucoup.
Nous sommes dans l'obscurité.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Alain, pour cette révélation. Cette fois-ci, allons à Mandaka pour donner la parole au dernier auditeur. Il s'appelle Samuel. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
À vous la parole, allez-y. On n'a plus assez de temps.
Ma proposition est la suivante. Ici, dans notre province, ici, dans notre territoire de Bikoro, il y a une rivière de Lolo. Cette rivière-là coule beaucoup. Il y a tant d'eau qui coule. Cette eau-là, on peut proposer aussi un certain hydroélectrique pour lire des courants électriques ici, dans notre province. Je pense que dans des provinces ici, dans notre pays, il n'y a plus assez de courant électrique, toujours des panneaux. Il y a aussi des changements climatiques qui changent. On a aussi assez de ça. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Il manque, ça c'est le problème de la volonté politique. Nos politiques ne font rien et veulent toujours gagner de l'argent pour leurs familles, mais ne parlent pas pour leur population qui ont été élues. Merci.
Je vous en prie, Monsieur Samuel. Je rappelle que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Monsieur Christian, donc, okay. des potentialités, il y en a. Vous voyez les cas, par exemple, du témoignage de l'auditeur des News, qui a fait allusion à la montagne Maïma, qui aurait de l'énergie que pouvant desservir toute la région, là.
Oui. Ça, c'est vrai. Les potentialités, et ça, on ne peut même pas maintenant là réfléchir des fois. Donc, les données, si les potentialités en RDC, nous en avons. Et les cartes sont là. Et comme je l'ai dit, c'est que la plateforme que nous avons mise en place, ce qui est bien, c'est que ça répertorie tout ce qui est comme potentiel hydroélectrique, solaire, éolien de l'RDC. Dans toutes les provinces, dans tous les milieux où il y a les potentiels, donc vous trouverez ça dans cette plateforme Congo-Pela que nous avons mise en place. Et donc, et l'avantage encore, parce que je vous ai dit au début ici, nous devons aussi aller au-delà des potentiels. Le potentiel, c'est une chose, mais il faut parler aussi de l'électricité. C'est pourquoi nous avons réfléchi au-delà du potentiel. Donc, nous avons aussi, parce qu'un investisseur, pour qu'il arrive dans un milieu, il n'a pas seulement besoin de voir le potentiel, il a besoin de connaître la demande dans le milieu.
Oui.
Même quand tu as posé la question de dire, et que faut-il faire dans ta question, c'est en fait, ce sont des solutions.
Oui.
Et dans les solutions d'électrification, il faut savoir que, au-delà du fait que nous avons besoin de données sur le potentiel, nous avons aussi besoin de données sur la demande. Parce que la demande va conditionner si jamais quelqu'un veut ou ne pas aller dans une zone.
Oui, mais ce qui est vrai, la demande, elle existe dans presque tout le coin du pays, M. Christian.
Là, c'est la demande théorique. Parce que il faut aller sur le terrain, il faut faire des études. C'est ça le grand travail que nous avons fait. Donc, nous avons fait des enquêtes sur le terrain pour arriver à estimer la demande dans toutes les contrées où il y a des populations, où il y a des communautés. Nous avons la demande.
Selon les besoins, vous avez la cartographie,
voilà.
La cartographie, les potentialités.
Exactement. la demande, et les solutions. C'est, donc nous avons accouplé, donc nous avons d'une part les données sur les potentiels dans chaque milieu où il y a des gens, et nous avons les données sur la demande énergétique pour chaque contrée où il y a des gens, et au-delà de ça, nous donnons aussi des solutions les moins chères. Quand je dis moins cher, évidemment, je fais allusion à l'ODD7 qui insiste sur les coûts abordables. Donc, la plateforme Congo Epela répond en fait, évidemment, a été conçue pour répondre à cette ODD7 qui insiste sur l'accès pour tous à l'énergie moderne, durable, et aussi à un coût abordable.
Mais est-ce que vous avez amené ces données aux autorités des tutelles? Est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à ces rapports documentés dans ce secteur de l'énergie électrique?
Ok, ça c'est une bonne question. Je pense que nous sommes en train vraiment de nous battre. Pour l'instant, je dois dire, nous avons réfléchi pour nous permettre de bien avancer dans ce que nous faisons. C'est que nous avons créé un core group, un groupe technique. Dans les groupes techniques, au niveau national ici, nous avons des experts qui sont venus de plusieurs institutions qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Donc, entre autres, l'ASNEL, l'ANSER, les ministères des plans, et l'UCM et même le ministère de tutelle, donc le ministère de l'énergie. Nous avons quelqu'un qui est là, mais je dois vous dire que en fait les réunions que nous faisons avec ces gens, nous avons compris que il y a de l'intérêt. Il y a aussi la CR, les privés même ils sont là, il y a la FEC, donc tous ces gens sont là parce que et tous ils sont dans les secteurs d'énergie, et nous réfléchissons tous ensemble si une vision où est-ce qu'on veut aller dans les secteurs énergétiques pour le pays. Et les données que nous avons dans cette plateforme, évidemment, depuis parce qu'on a commencé la recherche en 2019, on a lancé la plateforme en juin 2022 ici. Et donc les données que nous étions beaucoup plus focalisés, c'est avoir des bonnes données, parce que vous savez que les données dans les pays posent problème. Alors nous avons beaucoup travaillé sur comment on peut arriver à fiabiliser les données que nous avons que nous allons à mettre en place dans cette plateforme, et c'est le grand travail que nous avons fait depuis toutes ces années. Maintenant le travail que nous voulons faire, c'est d'aller maintenant, de voir maintenant comment est-ce que nous pouvons mettre à profit les résultats de la modélisation pour chaque institution, c'est-à-dire un prix. Quel est son besoin spécifique s'il veut utiliser la plateforme? Qu'est-ce que lui attend derrière? Quelles sont ses attentes? Donc on veut aller par exemple au ministère des tutelles. Qu'est-ce qu'ils aimeront voir dans la plateforme? Quelles sont les modélisations qu'ils ont besoin? Parce que je dois dire
si un tel entrepreneur met un tel capital, qu'est-ce qu'il va gagner et qu'est-ce que la communauté aura aussi comme bénéfice, comme service social?
On veut vraiment aller dans des choses un peu pratiques, comme tu le dis. Donc on veut aller vraiment dans des choses pratiques sur le terrain. C'est que on veut mettre la plateforme maintenant pour répondre vraiment aux spécificités de chaque acteur qui intervient dans le secteur. Et donc pour le ministère des tutelles, je dois dire que pour l'instant, c'est vrai, nous sommes en train de vouloir rencontrer le ministre, mais le travail est déjà fait avec des délégués. Donc le fait qu'ils ont déjà délégué des gens, c'est déjà une chose. Maintenant, et il nous faudra maintenant aller officiellement pour montrer voilà la plateforme qui existe. Mais là, nous sommes en train encore de nous battre pour arriver à voir le ministre, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à avoir l'audience pour voir le ministre.
Merci beaucoup monsieur Christian Kabongo. Benga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur du secteur énergie à l'ONG Ressources Mater. Merci d'avoir été avec nous. L'état imparti à l'émission est épuisé, donc à la prochaine occasion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est par ici que nous clôturons cette émission au Capi Service que vous a présenté Tati Mapoukou, Jean-Marc Matoua qui a réalisé et coordonné cette émission. Alain Goyer était à la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous de Capi Service. Au revoir.